Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous. Bon week-end, bien sûr, ça c'est le plus important. Et merci d'être là, comme chaque samedi, dimanche et même le vendredi, en avant-première, en podcast, dans De quoi je me mêle. Vous savez, votre rendez-vous donc du week-end dédié à la tech. Avec, pour ce De quoi je me mêle, cette semaine tout à l'heure, notre nostalgique et Christophe Joly qui a enquêté sur le QR code. Aujourd'hui, le QR code fait partie de notre quotidien. Alors évidemment, le Covid l'a accéléré, mais il faut savoir que le QR code est une innovation qui date. Eh bien, on aura toute l'histoire du QR code tout à l'heure avec Christophe Joly. Ce sera en deuxième partie de quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag de DQJMM si vous voulez réagir et poser vos questions sur Twitter. Merci encore une fois d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et tout de suite, c'est l'actu, bien sûr. Le club de la presse IT pour commencer avec Mélinda d'Avansoulas qui nous fait la gentillesse d'être là aujourd'hui.
Bonjour François, bonjour Anthony.
Mélinda qui n'est pas venue les mains vides, c'est non, tout ce que jamais. Je peux vous dire pour l'instant. Le teasing qui tue. Et Anthony Morel bien évidemment, fidèle au poste comme toujours. Salut Anthony.
Salut Mélinda, salut François.
Bon voilà Anthony que vous retrouvez sur Good Morning Business tous les matins, sur BFM Business mais aussi à la mi-journée avec Estelle Denis. Ouais. Et puis Mélinda un peu partout.
Elle est partout.
Elle est partout. Elle
se répond sur les antennes. C'est incroyable.
Partout, dans nos champs, dans nos campagnes.
Incroyable.
Le cauchemar.
On n'en peut plus de Mélinda, on va dire la vérité.
Oh non. Non,
complètement faux.
C'est une semaine de CES avec moi. Ça y est, Anthony ne veut plus.
On est loin de l'overdose. Bon, vous vous remettez du CES un peu ou pas ?
Non.
Ça y est, c'est réglé ?
Ouais, ça non. va. Si, si, ça.
Ouais, ça va.
Ça commence, ouais. Ouais. Ouais.
On se prépare pour Barcelone maintenant. Psychologiquement.
On a des problèmes de riches.
C'est vraiment ça. Tu te remets de Las Vegas, ça va ? Pas trop dur la vie.
Enfin, cela dit, on a beaucoup bossé. Donc
ah oui,
on
n'y
va pas
pour jouer aux machines à sous. Hein,
ça, c'est vrai.
C'est vrai. Écoute, depuis mon tout premier CES, je n'ai jamais joué au casino.
Et ben voilà.
Moi, j'ai fait un petit poker, moi, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Poker. Un petit tournoi de poker.
Ça a été rapide, visiblement.
Oui, non c'est pour ça que j'ai dit un petit poker.
Il est toujours
je ne voulais pas un peu casser ouais. l'ambiance. Ah, mais...
Il est toujours avec nous, c'est pas bon signe.
Je suis pas reparti plus riche que je suis arrivé.
Ouais,
ça,
ouais, c'est clair. Bon, c'est souvent comme ça à Las Vegas aussi. Alors, dans l'actu, dans quelques instants, on va parler de Netflix qui a des super résultats. On va parler de Palworld aussi, d'une innovation Disney qui est étonnante. Et puis notre module bonus, ça sera une petite surprise, voilà, avec Anthony et Mélinda. Mais pour débuter, j'aimerais que Mélinda nous présente un produit que vous allez découvrir. Alors, pas en avant-première parce qu'il est déjà sorti en Chine, etc. Mais la nouveauté, c'est que ce produit arrive en France. Et franchement, c'est à mon avis l'un des produits les plus bluffants de ce début d'année. C'est le nouveau smartphone pliant d'Honor.
Voilà, Honor Magic V2. Alors j'aime bien parce que ça fait
le
un peu...
V2.
Ça fait... Oui, on est entre les avions et l'évolution de prototypes. Non, là honnêtement, on est
ils
plus au niveau
Ils voulaient l'appeler Max,
prototype.
Mais ils se sont dit que c'était pas bon. Là, Boeing, en ce moment, c'est...
Ouais, c'est pas bon. Ouais. Ouais.
C'est pas terrible.
Ils se sont dit, il y a un boulon qui va se décrocher.
C'est ça, c'est ça. C'était à la fenêtre du téléphone.
C'était
à la fenêtre du téléphone qui s'en va, c'est pas bon.
Oh, quelle horreur.
Non, quelle horreur.
Et peut-être qu'il résiste à une chute de 5000 mètres comme l'iPhone.
Comme l'iPhone, en effet.
Alors, je suis un peu sceptique quand même, parce que c'est le problème des smartphones pliants. Quand même, au bout d'un moment, même si on nous promet 400 000 ouvertures de charnière, qui fait ça dans sa vie ? A priori, non. Non, pourquoi je vous le montre ? En effet, on l'avait aperçu pour la toute première fois à l'IFA de Berlin, donc en septembre dernier. Souvenez-vous de l'année dernière. Honor, alors pour faire le petit topo, ex-petite sœur de Huawei, qui profitait de la R&D de Huawei, mais pour se dire, on fait des produits pour les millennials en ligne.
Oui. D'abord sur le web.
D'abord sur le
et
web.
Et après qui ont été distribués par les opérateurs.
Parce qu'ils se sont émancipés, problème de Huawei faisant, on a séparé les deux entités, Honor vit sa vie. La vie plutôt bien, honnêtement. Même si en France, ce n'est pas encore flagrant, ils atteignent les 5% de part de marché. Alors, ça fait d'eux peut-être le quatrième
c'est
vendeur.
Pas si mal, hein, ouais.
C'est pas si mal.
Bon, oui, enfin, ils sortent des radars, quoi. Voilà. On commence à les voir.
On commence à les voir.
C'est une marque connue. Enfin, les gens connaissent Honor, tu vois. Il y a plein de marques chinoises que les gens ne connaissent pas.
Exactement. Et ils ne seront plus connus seulement, en gros, par les moins de 25 ans. Je schématise un peu, mais c'était ça, leur cœur de cible. C'était plutôt les 18-25. Aujourd'hui, quand on arrive avec des produits aussi évolués que leur gamme de pliants, là, on touche d'autres publics, on touche aussi d'autres portefeuilles, hein, parce que les prix ont sérieusement gonflé.
Ouais.
Pourquoi je vous parle de celui-là ? Parce que si on le voit à l'image, il est ultra fin. Je n'ai jamais eu un smartphone pliant aussi fin en main. Ouais. Ouvert comme ça, il fait 4,7 mm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même si je le ferme, vous voyez, moi j'ai un iPhone, bon ok, il a une coque, ouais. Mais on est kiff-kiff, on est à 9,9 mm.
Ouais, c'est-à-dire qu'avec ton iPhone, ton 15 Pro Max
petit format.
Bon, alors il a une petite coque, hein, donc
oui,
ça dépaissit
bon,
un petit peu.
Je crois que c'est 0,8 normalement l'iPhone, l'épaisseur.
0,8 8 mm, tu veux
ouais,
dire
ça. Ouais. Oui, ça, 0,8 cm.
Donc. Et là, on est à
9,9, plié. Ouais. 9,9 plié.
Okay. C'est quasiment pareil. Hein.
Donc, franchement, ouais. Pour avoir, parce que effectivement, l'avantage, c'est que quand il est déplié, waouh.
Il est très fin et surtout, il ne fait pas. Vous savez, un peu faiblard, genre si je le cogne, il va se plier.
Il a l'air hyper robuste, non, il est malgré robuste. Sa finesse.
Franchement, il est très robuste. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est un peu la référence en général, par rapport à un Galaxy Z Fold de Samsung, on est beaucoup plus fin.
Ah oui,
on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, d'assez élégant, mais parce que c'était la référence, les Folds. Ils étaient très élégants. Souvenez-vous que les premiers Folds étaient quand même moins beaux, qu'ils se sont aussi beaucoup inspirés de ce qui a été fait à côté. Donc Oppo avait proposé, du temps où Oppo était... encore là, proposer aussi un modèle pliant qui était très sympa.
Et juste un truc, vous avez vu qu'Oppo était en train de revenir.
On en parlera après, parce que j'ai oublié de vous le dire.
C'est un truc hyper intéressant.
C'est intéressant ça aussi. Mais bon, tout ça pour vous dire que ce Magic V2, donc smartphone pliant, qui va frontalement concurrencer le Galaxy Z Fold 5, on trouve le même processeur à l'intérieur, donc le Snapdragon 8 Gen 2. On est quand même sur un truc pas mal.
On en est où aujourd'hui sur le S24, il y a quoi?
Du 8 Gen 3.
D'accord.
Le S24.
Enfin, il est de l'Exynos en France, enfin en Europe.
Alors, sauf sur le Ultra,
ah oui, sauf
c'est du Snapdragon,
c'est
mais
du,
les petits. Enfin, les petits. Les S24 et S24 Plus, ce sera de l'Exynos. Les tout petits, les entrées de gamme.
Ok.
Non, là.
Oui, donc, on a un téléphone haut de gamme avec un processeur haut de gamme.
Processeur haut de gamme. Batterie quand même de 5000 mAh qu'ils ont réussi à affiner et qui, honnêtement, moi, pour l'avoir en main depuis quelques temps, la batterie, elle est endurante. Hein. C'est pas parce qu'il est fin qu'on a mis une batterie pourrie dedans.
Au rabais, ouais.
Il est léger. Alors ouais. Ça, c'est quand même... même si, répartition du poids, il fait un peu plus lourd là, parce qu'évidemment, tout est sur une seule
ouais.
partie.
Ouais, ouais, ouais,
quand c'est
sûr.
Fin comme ça, il faut choisir.
Il y a le bloc photo aussi, de l'autre côté.
Le bloc photo, 3 capteurs photo qui sont plutôt pas mal. On a un téléobjectif, ultra grand angle, 50 mégapixels.
Honor est très bon en photo. Il y a le Magic, c'est quoi, c'est l'Ultra
Magic Pro.
Le Magic Pro.
Magic 5 Pro, pardon, qui est un excellent photophone.
Ouais, ouais,
vraiment
qui fait partie toujours
très
du top 3 des meilleurs
qui
photophones.
Qui, pour moi, est vraiment sur le podium. Enfin, sur
ouais,
le podium.
C'est ça.
Allez, ils sont 4 maintenant. C'est le 4e vraiment très, très bon en photo.
Bon, vous parliez de solidité. Moi, c'est le point quand même sur lequel je voudrais revenir.
Ouais.
Pardon de casser un peu le
non,
truc.
Non,
mais
non,
sur la... Vous disiez qu'il a l'air robuste. Moi, j'aimerais bien avoir des preuves là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est l'un des gros points faibles quand même des téléphones pliants. Depuis que j'ai vu l'iPhone de François Perret écrasé par un SUV à Las Vegas
et
leur sortir indemne, je me dis c'est quand même un bon argument de vente aussi, tu vois, d'avoir un téléphone solide. Parce que vous avez pas raconté ça, mais c'est vrai
que ton téléphone a survécu à un SUV américain.
On racontera ça dans le module bonus.
Ah, c'est pas
vrai.
Mal ça. Ouais,
c'est
restez parce que franchement l'histoire vaut le coup.
Restez.
Mais enfin en tout
et
cas,
en plus il y aura un petit conseil en plus de tout ça.
En plus. Mais tout ça pour dire que voilà, ça fait quand même partie, c'est un peu le talon d'Achille de ces téléphones pliants et ça fait partie aussi des arguments pour lesquels ils se vendent pas tellement. Pour l'instant.
Et là-dessus, il y a eu un énorme travail de fait sur la charnière. Déjà, si vous regardez, aujourd'hui, on a quasiment du face-à-face, face-contre-face. Il n'y a plus cet effet un peu bulle, vous savez, un peu arrondi, qui faisait que la charnière, elle était plus proéminente. Là-dessus, il y a eu un gros travail. Honor a beaucoup poussé l'industrie à ce niveau-là pour avoir des charnières beaucoup plus fines. Après, honnêtement, il a un avantage, je ne vous l'ai pas dit, la taille des écrans. On est à 6,4 en extérieur, 6,4 pouces, donc sur un smartphone normal. 7,9 à l'intérieur. Donc on a quelque chose de très grand. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'on utilise énormément le smartphone, ce smartphone-là en smartphone. En fait, l'écran extérieur devient vraiment utilisable. C'est un écran en plus OLED 120 Hz à l'intérieur pareil, de très très bonne qualité. Et il y a un truc que j'aime beaucoup chez Honor, c'est leur système d'ajustement de l'écran, de la luminosité. Ils ont une technologie, alors je ne sais plus le nom exactement, c'est Display Dimming quelque chose, qui suit le rythme aussi circadien, c'est-à-dire la luminosité du jour, ça s'adapte.
Ah ouais,
ils ont un système de lumière qui n'est pas juste un truc d'anti-lumière bleue.
D'accord, d'accord.
Et franchement, c'est un des meilleurs écrans, je trouve, en plus d'être très lumineux, parce qu'on monte quand même à 2500 nits sur l'extérieur, donc vous pouvez vraiment l'utiliser en toutes circonstances. C'est un des meilleurs écrans, je trouve, pour les yeux, pour protéger vraiment les yeux. Il faut au moins leur reconnaître ça, ils mettent ça sur tous leurs modèles haut de gamme.
franchement, il est hyper séduisant, je trouve, ce téléphone. Oui, après, vraiment, il donne super envie. Et effectivement, la finesse, c'est un argument génial parce que c'est quand même l'un des gros points faibles de ces téléphones pliants. Mais plus généralement, vous continuez, vous, les amis, à y croire aux téléphones pliants.
Moi, j'aime bien.
Moi, j'aime bien aussi. Mais je t'avoue, je commence à avoir des doutes parce que ça fait quand même quelques années qu'on les voit sur le marché. Alors, on pourrait se dire, les premiers modèles, OK, ils n'étaient pas complètement au point, ils coûtaient très, très cher. Le public commençait à découvrir le truc et tout. Là, ça fait quand même quoi, 3, 4, 5 ans qu'on les voit.
5 ans, ouais.
Je regardais les chiffres de vente, c'est quand même. Enfin, c'est peanuts, c'est 15 millions d'unités en 2023. Tu vois, Apple doit vendre 150 millions d'iPhone sur l'année. C'est vraiment une fraction de ce qui se vend au total. Donc, sur le marché des smartphones haut de gamme, ça prend pas, quoi. Enfin, ça n'a pas l'air de prendre. Donc, je me demande s'il y a vraiment un avenir pour ça, tu vois.
Alors, je suis d'accord avec toi, parce qu'il n'y avait pas de concurrence aussi. Avant, on n'avait que Samsung. Qui avaient sorti des modèles très très bien, mais ils n'avaient personne d'autre.
Samsung a le mérite aussi de défricher le terrain. Hein.
Voilà, ça c'est vrai. Il faut leur reconnaître.
Ils étaient les premiers à lancer. Il faut avoir quand même beaucoup de courage pour dire, vous savez quoi les gars, on va sortir des téléphones pliants. Le premier, je vous rappelle, ça avait été une catastrophe. Il y avait des youtubeurs qui arrachaient les écrans.
Ouais. Ouais, enfin, ça, c'était un peu la faute des youtubeurs aussi.
Ça, on y reviendra sur cette
idée. Non, mais c'est vrai que ça fait un bad buzz. Mais ils ont tout encaissé, Samsung, et franchement, ils ont le mérite d'avancer. Chaque année, ils sortent une nouvelle itération du Fold. Ils ont sorti le Flip aussi.
Ouais, moi, je suis plus Fold que Flip, par exemple.
Moi, j'aime bien les Flips, moi.
Mais moi, je préfère ce format-là.
Le côté miroir, là.
En fait, voilà. Moi, Game je préfère Boy ce Advance. Format-là parce que c'est mon SP. Utilité, en fait. C'est mon utilité d'avoir un smartphone avec un écran qui est plus grand quand j'ai besoin qu'il soit plus grand.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Le Flip, pour moi, c'est un gain de place.
Ouais. Oui,
donc,
c'est ça.
Mais ça, je respecte ça. Moi, c'est
pas
mon
gain de place, mais il est beaucoup plus épais.
Mais il est plus épais.
Donc, il n'est pas... Enfin,
J'ai tendance à dire, je trouve que malgré toute la communication qui a été faite, le Flip est un téléphone pour vous messieurs parce que vous avez tous des poches là pour le glisser. Ouais. Et que moi, ça, qu'il aille dans ma poche arrière parce que j'ai 10 mètres à faire ou dans mon sac, c'est pareil. Je n'ai pas, c'est mon usage. En fait, j'ai un vrai téléphone, enfin un vrai usage de ce téléphone-là, que le Flip est un usage pratique.
Moi, tu sais quoi ? Moi, le test, c'est la poche arrière de mon jean parce que j'ai tout le temps mon téléphone là, à cet endroit-là. Tout le temps.
Mais tu veux que je dise moi aussi.
Et
pourtant j'ai un grand format.
Ah non, j'ai peur de m'asseoir dessus.
Et celui-ci en fait passe le test.
Et c'est vrai que
pour revenir à Samsung, je veux dire Samsung doit avoir un peu les boules quand même parce que.
Mais ils vont s'en servir, ils vont avancer. Le prochain sera ultra fin, le Z Fold 6, t'es
oui,
sûr.
Oui, mais tu vois quand tu lances une nouvelle, une nouvelle verticale comme ça en disant je sors un smartphone pliant, t'as un Honor qui arrive avec un truc plus fin, plus léger et tout ça. Moi, j'aimerais bien. Zut quoi.
J'aimerais bien être dans les réunions d'ingénieurs, tu vois, chez Samsung. Quand tu vois le téléphone qui sort, tu disais t'as le chef qui doit arriver. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
Qu'est-ce que c'est que ce truc là ?
Mais je pense.
Sortez-moi le fouet.
Il est deux fois plus fin. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars ? Faut bosser maintenant.
Mais, ouais.
Mais tu sais, là, je pense que c'est vrai parce que Samsung, c'est la tête de pont de tout ce marché-là. C'est quand même la plus grosse innovation ces dernières années sur du téléphone. Maintenant, bon, on va nous parler IA et trucs. Le format Fold ou Flip, pour moi, ces dernières années, c'est vraiment le truc qui a un peu changé. Ça marche, ça marche pas. Ça, c'est vrai que c'est pas encore ça. Mais Samsung a toujours essayé. Aujourd'hui, ils ont de la concurrence qui arrive. Sur le, souvenez-vous, du Flip qui avait son écran qui était ridicule en façade, qui ne servait absolument à rien.
Ouais, c'est clair.
Motorola est revenu avec son Razr,
oui, qui était ce
qu'il était, mais qui avait un écran externe qui était utilisable.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Flip, aujourd'hui, a un écran externe utilisable. Honor, qui avait un premier modèle de pliant qui était intéressant, arrive aujourd'hui avec plus de finesse. Samsung va faire la même chose. Et c'est eux qui en vendront toujours le plus, au final.
Ouais.
Mais au moins, il y a une concurrence qui arrive et qui s'installe. Et moi, je trouve que c'est bien. Reste à baisser les prix.
Ouais.
C'est ça. C'est l'autre avantage de la concurrence. C'est qu'en théorie, ça doit pouvoir faire baisser les prix. Mais enfin,
espérons.
Pour l'instant, on est quand même. Alors, on n'a pas encore le prix de celui-ci, mais enfin, globalement, les prix qu'on voit sur les téléphones haut de gamme.
C'est entre 1500 et 2000 balles.
Ouais, c'est ça. Donc.
Le Fold 5.
Le Fold, il était quasiment à 2000, je crois.
Ouais,
hein.
Les premiers
étaient sortis à 2000-2002.
Qu'on va être dans ces eaux-là avec celui-ci.
Oui, mais. Après, il y a encore toutes ces entreprises-là, comme tu disais, hormis Samsung, sont au début de leur démarche.
Clair.
Donc, la R&D, ça coûte cher.
Mais pour revenir à ce que disait Anthony, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Apple va se lancer là-dedans, c'est sûr.
Ah bah ça, ce sera on là sait. Pour le coup, oui. Ça peut mettre un gros coup au marché.
J'en suis persuadé.
D'accord.
Ils attendent, tu sais, c'est toujours pareil. Ils voient un peu, voilà.
Ils laissent les autres défricher.
Samsung essuie les pains, voilà. Et puis, encore une fois, la technologie, et quand on voit ce qu'arrive à faire Honor aujourd'hui, Apple doit regarder ça de près.
Sûrement.
Et... Je ne sais pas ce que tu en penses, Mélinda, mais je me dis qu'à terme, Apple ne peut pas laisser ce segment avec une technologie qui devient mature maintenant, comme ça, sans rien, tu vois.
Mais je sais depuis des années que dans les couloirs, en gros, Il ne le dit jamais officiellement parce qu'Apple ne dit jamais rien.
Mais ça bosse là-dessus.
Ça bosse sur un modèle.
Mais je suis persuadé qu'ils discutent avec Samsung depuis des années sur les écrans pliants.
Bien sûr.
Sur la manière dont ils peuvent intégrer tout ça. Non, mais
Ils bossent sur un modèle. Est-ce que ce sera un format iPhone qui se replie en façon flip? Je ne suis pas persuadée. Parce qu'en fait, Apple a dans son catalogue, n'oubliez pas, l'iPad mini.
Mais alors, bien sûr, ils vont jouer là-dessus. Ils vont dire, vous dépliez, vous avez un iPad mini.
Voilà, moi c'est je pense que l'iPad mini, ils ont du mal à savoir à lui faire trouver une place.
Mais bien sûr.
Et que la seule façon de le garder quelque part, ce serait de bosser sur un format d'iPhone qui devient un iPad mini.
Enfin, là, on s'éloigne, on parle d'Apple, mais félicitations à Honor. Ce produit est incroyable.
Moi, j'aime
prenez-le
bien.
En main, regardez-le si vous avez. Bon, alors évidemment, ça va coûter un bras, hein, mais peut-être qu'il y aura des promos. Enfin, au début, on peut imaginer qu'il y aura des petits trucs et
c'est
tout.
C'est comme Samsung, le prix de. Attendez toujours 15 jours et le prix descend. Mais très honnêtement, moi, pour l'avoir là depuis quelques temps, je trouve vraiment que c'est intéressant. Après, la seule différence par rapport au
Z Fold, logiciel,
qui pour moi est une référence quand même d'utilisation là-dessus, c'est la surcouche. Est-ce que vous êtes plus One UI, l'environnement de Samsung, ou MagicOS
Il y a beaucoup de différences.
Non, honnêtement, c'est plus des habitudes, d'accord, je trouve. Okay. Même si One UI se rapproche énormément maintenant de tout ce qui se fait côté Apple, c'est des habitudes.
Bon, voilà pour ce Magic qui sort le 26.
Alors, il ne sort pas le 26. Ils nous disent qu'ils vont annoncer plus de trucs le 26. Okay. Donc, je pense que ce sera, à mon avis, le prix de date de sortie. Mais honnêtement, pour qu'ils en parlent déjà, c'est incessamment sous peu, voire avant.
Sachant qu'il y aura une version VS2 qui est plus petite et qui est déjà,
sortie en Chine, qui est une version light, en fait.
Très bien. On parle d'Oppo maintenant ou pas?
Parce que
c'est l'actu qui est tombée là ces dernières heures. On en a parlé, on a évoqué ce truc-là. Hein. Oppo qui s'est retiré du marché français il y a quelques mois de cela, dans des conditions catastrophiques, sociales. Enfin, voilà, ils ont laissé en plan les fournisseurs. Ça a été un carnage, hein, on va dire, et sans compter les clients. Hein. Bon, alors, il y a toujours des mises à jour, etc. Mais je serais curieux de savoir si on a un Oppo aujourd'hui, en termes de garantie et de SAV, ce que ça donne. Tu vois.
J'espère que ça part à l'Europe.
Voilà, j'espère que ça part à l'Europe.
Pour les endroits où ça reste.
Et Oppo est parti du marché français parce que, en fait, Nokia les avait attaqués pour des questions de brevets 5G.
Ouais.
Il se trouve qu'entre-temps, là, cette semaine, ça y est, c'est les meilleurs amis du monde, Nokia et Oppo. Ils ont dû se faire des chèques de je ne sais pas combien de centaines de millions. Le problème est réglé, ce qui fait que maintenant, Oppo peut revenir sur le marché européen, en Allemagne et en France.
Sachant, alors si je peux me permettre un petit bémol, en France... C'était la raison réelle n'était pas que le coût des brevets. En fait, en France, Oppo n'était pas géré vraiment par Oppo.
Non, c'était un distributeur.
Il était géré par un distributeur qui, en gros, n'avait pas vraiment de raison de se retirer et s'est retiré en profitant du procès en cours en Allemagne. Sauf qu'on sait depuis des mois, comme tu l'as dit, fin 2023, qu'en Allemagne, en gros, c'était un peu solutionné. Et là, ils ont acté l'arrêt des procédures et tout. Mais en gros, la France, en gros, le distributeur français s'était un peu engagé là-dedans en disant... On se retire à cause de ça.
Ouais, mais Ménida, à la limite, c'est pas notre problème.
Ouais, mais Oppo, il y a un autre problème. C'est que, et c'est pour ça que je pense que le retour d'Oppo, moi, je suis plus mesurée. Oppo, en France, ils ont aussi OnePlus. N'oublions pas que c'est finalement une seule et même grande famille et qu'en France, on essaye de pousser OnePlus.
Ils ont Oppo, OnePlus, Vivo, Realme.
Realme qui a disparu de la circulation aussi depuis mois en France.
C'est un groupe, c'est
BBK.
Ou je sais plus quoi.
Oui, BKK, enfin, en tout cas, Electronics. C'est une grande famille. Donc personne n'est vraiment en famille, mais tout le monde bosse un peu ensemble. Et en France, ils voulaient privilégier OnePlus, qui était une marque, souvenez-vous, il y a quelques années, qui avait vraiment le vent en poupe.
Beaucoup moins maintenant.
Et aujourd'hui, alors moi, à titre personnel, pour tester par exemple les produits, je ne sais pas où ils sont.
Ouais.
Qu'ils existent, mais je n'arrive pas à avoir de contact. Mais ils ont liquidé Oppo quelque part pour privilégier OnePlus, dont on n'entend pas plus parler.
C'est vrai, c'est vrai. Oppo d'ailleurs, on parlait d'écrans pliants, mais ils étaient aussi.
Oppo N Flip et compagnie.
Techniquement,
plusieurs écrans roulables. En tout cas, en termes d'innovation, ils tentent des trucs. Après, écran roulable, je suis pas certain que ça ait un avenir extraordinaire.
Ils étaient en train de décrocher.
Ils pouvaient, ouais. Moi,
cette histoire-là.
Je croyais beaucoup plus en Oppo. Aujourd'hui qu'en OnePlus. Ils étaient innovants, les produits étaient d'excellente qualité. Ouais. On parlait du Flip de Motorola aussi, le N Flip qui est sorti donc en Chine. Nous, je crois qu'on a peut-être eu le N2.
Ouais.
Moi, je l'avais testé, c'est un excellent téléphone.
Ouais. Bon, on verra ce qui va se passer.
Mais ils peuvent. En tout cas, rien
là maintenant, la route est libre, ils peuvent revenir. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Est-ce que c'est OnePlus qui va revenir?
Qui est toujours là,
OnePlus. OnePlus, ils sont toujours là. Ils n'avaient pas de problème de brevet.
Non, parce que ça, c'était des bisbilles. En fait, c'est ça le truc dans ce groupe, c'est que Vivo est là aussi, mais Vivo, Vivo n'arrive pas à percer en France.
Non, c'est sûr.
OnePlus stagne, mais voilà. Mais Oppo, j'y croyais plus.
C'est bizarre, hein, toutes ces galaxies de marques de smartphones chinoises. C'est fou quand même quand on prend un peu de recul. Allez, on enchaîne. Netflix, avec Anthony, les résultats financiers de Netflix qui sont tombés.
Oui.
Bon, alors nous, c'est pas trop ça qui nous intéresse. C'est plutôt tous les chiffres qui découlent en fait de ces résultats. Et ça, ces chiffres-là sont assez waouh.
C'est ça, il y a eu plein de choses très intéressantes qui montrent que Netflix, là, tout est ouvert, et notamment grâce à leur abonnement avec publicité, dont on a beaucoup parlé, hein, qui a été lancé l'an dernier, donc abonnement à 6 euros par mois. En gros, vous payez à peu près deux fois moins cher qu'un abonnement classique, mais vous êtes soumis à de la publicité quand vous regardez des séries. C'était un vrai pari à l'époque, parce qu'on se disait, attendez, Netflix s'est construit en opposition à la télé classique, où tu as de la pub tout le temps. Alors, c'est encore plus vrai aux États-Unis. Tous ceux qui sont allés aux États-Unis, qui ont regardé la télé là-bas, vous savez qu'il y a de la pub pour absolument toutes les 5 minutes, c'est insupportable. Et donc, Netflix, en gros, revient à la télé classique. C'était un peu ça, le truc. Et bien, en fait, ça cartonne, ça marche très, très bien. Ils ont engrangé sur un an 13 millions d'abonnés, là où ils avaient du mal. Ils étaient plutôt sur un plateau ces derniers temps. Encore plus dans des pays ultra saturés comme les États-Unis. Et la partie abonnement avec de la publicité, ils ont gagné 23 millions d'abonnés, donc en l'espace de quelques mois. Donc c'est énorme. Ça représente à peu près 10% des abonnés de Netflix aujourd'hui. C'est des abonnés qui prennent l'abonnement publicitaire parce que voilà, il y a les problèmes de pouvoir d'achat. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit je vais dégrader mon abonnement. Enfin, je vais être soumis à de la publicité, mais ça va me permettre d'économiser 6, 8, 10 euros par mois en fonction de l'abonnement qu'ils avaient avant. Donc ça, c'est vraiment malin.
Après, c'est une pub. Il n'y a pas autant de pubs, par exemple, que sur les chaînes traditionnelles podcasts. Il y a beaucoup moins de...
Non, c'est un avant...
C'est une minute avant ou enfin...
Tu as avant le diffusion, en gros comme sur YouTube, soyons clairs. Ouais. Tu as au milieu, je crois au bout d'une heure, tu as 3 minutes ou un truc comme ça, et c'est tout. Enfin,
voilà, donc
c'est pas hyper contraignant.
C'est digeste, quoi.
Ouais.
Et puis surtout aux États-Unis, enfin par rapport aux États-Unis, où sur une heure de programme, t'as 18 minutes de pub.
Ah, c'est clair.
Aux US, c'est comme ça. Hein,
ah, bien
c'est
sûr.
C'est formaté, absolument. Le broadcast, c'est ça. Donc finalement, ça reste un peu du premium.
Oui,
d'accord, parce que t'as un petit peu de pub, c'est digeste et tu payes moins cher.
Mais là où ils sont forts, c'est que souvenez-vous quand elle a été lancée cette offre. Elle était vraiment, je vais pas dire bas de gamme, mais il y avait qu'un écran, pas de téléchargement, pas de machin, pas de truc. Ils l'ont aussi dopé pour liquider leur offre de base.
Ouais, exactement.
En France, par exemple, aujourd'hui, l'offre qui s'appelait Essentiel, elle va disparaître. Là, ils sont en train de la faire disparaître au Canada et je ne sais plus où. Ouais. Ils ont annoncé à leurs investisseurs en disant mort tout comme, quoi. Ouais. Donc, c'est marrant, mais surtout, moi, un truc qui me fait marrer, c'est que tout le monde avait critiqué cette offre en disant « ça ne marchera jamais ». Le coup de dire « maintenant, vous pourrez plus refiler votre abonnement à n'importe qui, ça va couler Netflix, c'est une horreur », les chiffres montrent que pas du tout. Et je pense, moi, mon avis, l'offre à 6 euros, elle a un avantage. Vous avez la même chez Disney. Aujourd'hui, quand on veut regarder des séries, enfin, moi, je le vois parce que je paye toutes les plateformes quasiment, ça coûte une fortune. Est-ce que la concession de la pub un petit peu, et donc de, en fait, finalement, avoir deux abonnements pour le prix d'un, parce que si vous prenez Disney avec la pub, Netflix avec la pub, c'est l'ancien abonnement plein gaz de Netflix, c'est du 2 en 1, quoi.
Ouais,
je pense que ça joue énormément au niveau pouvoir d'achat pour ça.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'ajoute un point supplémentaire, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, tu sais, l'un des autres gros problèmes de Netflix auxquels ils avaient juré de s'attaquer, c'était le problème des passagers clandestins, c'est-à-dire les abonnés qui partagent leur compte, leur mot de passe, etc. Il y a 100 millions de personnes qui font ça, et c'est un manque à gagner énorme pour Netflix. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, en tout cas certains, qui se disent, bon là, 6 euros par mois,
j'y vais.
Voilà, c'est pas très cher, ça peut passer. Et donc, qui passent soit de « je ne paye pas » à 6 euros par mois, ou soit effectivement qui vont cumuler plusieurs abonnements en se disant, bah voilà, finalement, à 6 balles, ça peut passer, quoi. Donc c'est assez malin. En fait, ils ont fait un joli coup et ça se reflète dans les résultats.
Et en termes de business, c'est monstrueux. C'est, là, tu gagnes à tous les étages.
C'est évident.
Tu touches encore 6 dollars par mois d'un abonné, plus la pub.
C'est ça.
Qui doit être, en plus, j'imagine, enfin, ça va être un Eldorado pour Netflix.
Là,
c'est la pub ciblée, c'est une audience hyper qualitative parce que en fait Netflix remonte plein de data.
Ils savent tout sur toi.
Donc, voilà, c'est fou.
Et là où ils sont hyper malins, et c'est un autre truc qui a été annoncé à l'occasion des résultats, et en fait tu vas voir que toutes les pièces du puzzle finalement s'assemblent, c'est qu'ils ont aussi annoncé un gros partenariat avec la fédération de catch WWE pour diffuser en live des matchs de catch. Donc quand
ça
on disait
États-Unis, ça
c'est hyper malin. Donc ça aussi, alors pourquoi je dis que c'est malin? Déjà, il y a ce truc de vraiment, t'as l'impression que Netflix réinvente la télé. C'est-à-dire que la télé, c'est quoi? C'est de la pub et du direct. Netflix
et du sport.
Et Netflix, bah ça, on fait de la pub, on fait du direct et du sport. Eux qui se sont bâtis en opposition avec le modèle classique de la télé, c'est quand même hyper marrant de voir.
C'est
comme Amazon qui fait des magasins physiques après avoir fait. Tu vois, enfin, c'est très très marrant de ce point de vue-là. Sorte d'ironie de l'histoire comme ça. Et pourquoi c'est hyper malin aussi? Eh bien parce que ces matchs de sport, c'est en gros l'avantage, c'est que c'est des gens qui vont se connecter régulièrement à la plateforme, qui vont venir voir des matchs, je sais pas, tous les jours, toutes les semaines. Là, c'est pour du catch, mais ça pourrait être demain peut-être pour du basket, du foot américain, tout ce que tu veux. Donc, qui vont générer des revenus publicitaires régulier, récurrent. Donc c'est ça aussi, tu vois, t'as toute la machine et ce cercle vertueux qui va se mettre en place. Du point de vue de Netflix, là, c'est jackpot, quoi. Ouais, tu vois.
Mais là où t'as raison et ce qui est très drôle, c'est que par exemple, souvenez-vous, en France, ils avaient tenté de lancer Direct, qui était un truc, pour le coup, c'était un test français, c'est une spécificité française, qui était de vous proposer de manière un peu aléatoire
un flux
avec des épisodes de séries dans le désordre, la télé classique, linéaire. Soyons clairs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour garder des abonnés? Ils reviennent à des séries où tu as un épisode par semaine ou en deux parties sur Netflix qui t'oblige à rester abonné 2 mois. Parce que si tu veux voir par exemple The Crown, hop, tu l'as eu un mois, il faut que tu reviennes le mois suivant.
Alors
donc,
ils le font pas sur toutes les séries, ils font encore du binge watching.
Non, mais t'inquiète pas qu'ils le font sur les principales.
Mais c'est marrant
parce qu'ils ont une stratégie télé.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que toutes ces...
C'est les séries d'été de TF1, quoi,
voilà,
tu vois, en 1992.
Oh là là.
Non, mais c'est ça.
C'est vraiment ça. Château Vallon, tu vois.
Ouais.
C'est le retour de Château Vallon.
Il y avait quoi, le truc de Château des Oliviers ou un truc comme ça?
Oui, c'est ça.
Tout le monde était scotché devant la série.
Mais bien sûr, il attendait l'épisode de la semaine d'après.
Tu dansais sur la lambada, t'écoutais Château des Oliviers.
Ça, c'était l'été, en 1990.
Mais Disney, Apple TV ont réinventé le système de tu attends une semaine pour voir ta série. Le truc qui rendait soi-disant fou, et c'est pour ça que les gens allaient tous sur Netflix, tout le monde y revient. Et ça me fait marrer parce que, ça entretient le buzz, ça entretient l'abonnement. Et maintenant, si tu rajoutes un abonnement, ça entretient la pub. Ouais. Tout le monde est content, vive la télé, en fait.
Mais c'est vrai. Et alors, Netflix, ils deviennent une vraie chaîne de télé. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à...
Ils ont de la télé-réalité
faire des
aussi.
Émissions de flux, ils ont la télé-réalité.
Ils ont la télé-réalité
qui
aussi.
Enfin, qui n'est pas en direct.
Mais c'est le concept.
C'est ça.
Mais est-ce qu'ils vont accélérer sur le direct, par exemple? Est-ce que demain, ils vont faire des émissions, des shows en direct?
Ils avaient tenté un one-man show. Ouais, et ça avait été un peu bizarre parce qu'en fait, ils n'avaient pas anticipé le côté doublage.
Ouais, c'est ça.
Live, direct, et ça avait un peu floppé.
C'était un peu problématique.
Mais le sport est le nouveau terrain de bataille de tous les services de streaming.
Bien sûr.
Et en termes de pricing, c'est hyper malin parce que ça va aussi permettre, moi je pense, de proposer des abonnements plus chers. C'est-à-dire que, bon, peut-être le catch, ce sera une expérimentation, mais s'ils te proposent derrière du foot américain, du basket, tu auras sûrement des abonnements premium. Donc tu auras d'un côté du spectre l'abonnement à 6€, low cost, avec de la pub, et de l'autre côté du spectre, des abonnements avec des options plus, qui leur permettront.
Amazon Prime.
Top. Eh bien voilà, ça c'est fait, Netflix, et puis derrière il y a tous les autres, il y a les Paramount, les Amazon Prime, il y a les Disney+, etc. etc. Tiens, Disney+, on va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on évoque le jeu vidéo avec un vrai phénomène que vous allez pouvoir analyser tous les deux, parce que vous adorez ça, je le sais, c'est Palworld, qui, voilà...
Explose tous les
compteurs. Je lisais même que les créateurs du jeu sont super surpris du résultat. Ils ont été obligés de faire une espèce de roadmap en expliquant comment le jeu allait évoluer, etc., etc.
Ils ont été obligés de prévoir un jeu, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont surpris, ils ont bien cherché quand même le buzz. Ils sont malins.
Mais c'est le buzz depuis le début.
Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et pourquoi ça concurrence les Pokémon?
C'est une bonne question. Palworld, en gros, il a été... En gros, la description qu'on en donne, c'est Pokémon avec des armes, en gros c'est ça.
Ouais.
En fait, le jeu,
c'est le
à proprement
pour adulte,
parler,
quoi.
C'est pas le principe de Pokémon, c'est plus un jeu survival à la Ark, voire à la
Fortnite,
Minecraft, quoi, tu vois.
Genshin Impact, c'est un mélange, un combo de plein de jeux à la mode.
Mais pourquoi on parle de Pokémon? Parce qu'en fait, les monstres, parce que le but, en gros, c'est de capturer et de se battre contre des monstres, et les monstres sont clairement inspirés du design des Pokémon, pour ne pas dire complètement repompés, plagiés sur les Pokémon. C'est très très clair, et c'est tout l'objet du débat, parce que c'est ce qui a créé l'attrait autour de ce jeu. C'est-à-dire que les fans de Pokémon viennent y jouer parce qu'ils sont curieux et qu'ils retrouvent des créatures qui ressemblent à leurs créatures préférées et que, il faut le dire en passant, les derniers jeux Pokémon étaient quand même des très grosses déceptions. Hein, globalement,
tu es poli.
Ouais, parce que c'était vraiment des, c'est un peu des daubes, il faut être clair. Ils ont vraiment déçu leur communauté, donc il y a ça. Et puis ceux qui détestent Pokémon, ils viennent parce qu'on peut buter des Pokémon avec des grosses mitrailleuses.
C'est clair.
Parce que c'est aussi ça le truc, c'est Pokémon, mais en gros, tu peux vraiment être avec des armes et tu leur tires dessus. Tu équipes aussi tes Pokémon avec des armes. Enfin,
tu les
asservis,
tu les fais travailler.
Voilà. Bon, le principe, pourquoi pas, mais évidemment, ce qui a créé derrière toute la polémique, c'est le côté le plagiat de Pokémon. Est-ce que c'est une copie ou pas? Moi, je comprends même pas qu'il y ait débat, en fait. C'est qu'il y a des mecs qui te reprennent les sprites, les polygones, et qui te disent non, mais c'est pas une copie exacte et tout. Mais attends, mais visuellement, c'est juste impossible de ne pas voir que c'est repompé sur Pokémon.
Soyons honnêtes, ils ont complètement cherché à ce que ça fasse penser à Pokémon depuis le tout premier trailer.
Mais est-ce qu'ils vont pas se faire exploser en vol?
The Pokémon Company a réagi, enfin, au bout d'une semaine, en disant « Oui, des joueurs nous ont signalé qu'il y a un jeu qui ressemblerait étrangement à Pokémon. » Bravo les gars, une semaine pour réagir.
Les joueurs nous ont signalé, non, parce que nous, en fait, on s'en
on
fout.
Pas vu, nous,
on
n'a
pas vu.
Nous, au Pokémon Company, qui surveillons absolument tout ce qui s'appelle.
C'est clair.
C'est vrai que là, on ne l'avait pas vu, merci les joueurs.
Bien sûr.
Non mais quelle bande d'escrocs. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir une enquête et qu'ils allaient vérifier s'il y avait atteinte à leur droit de propriété. Donc, en gros, ils vont prendre Palworld, ils vont prendre Pokémon, puis ils vont faire un comparo pour voir si ça y ressemble. Non, mais il n'y a pas besoin de faire Matsup ou je ne sais quoi, pour voir que...
Mais là, parce que c'est vrai que enfin, tu tapes un Pokémon, après tu lances la bulle et tout, c'est vraiment... Oui, ça craint,
mais, non, mais c'est ça, enfin, mais en plus, le jeu est drôle, mais il est mauvais. C'est mauvais, il y a des bugs partout, mais c'est un défouloir drôle.
Mais par rapport au dernier Pokémon, c'est pas mal, en fait.
C'est le même, en fait. Il y a les mêmes bugs.
Non, mais c'est marrant, parce que le patron développeur de Pocket Pair, qui a un profil un peu particulier, enfin, c'est un mec qui vient pas du jeu vidéo, il était dans les cryptos avant, mais dans des projets un peu bizarres, tu vois. Moi, j'adore les cryptos, hein, mais là,
oui,
pour
mais
le coup,
là, on est sur
des projets un peu, tu vois, c'était très, très fichy, très bizarre. Et dans une interview, il dit « Ah, mais non, mais je ne vois pas pourquoi on nous dit Attends, ça n'a rien à voir. Attends, les mecs, en plus de la copie des monstres, tu les collectionnes, les monstres, dans un Paldex.
Non, mais c'est non, ça. Ça s'appelle Palworld.
Paldex, c'est pas un Pokédex, mais enfin, ça y ressemble quand même un tout petit peu. Enfin, tu vois, vraiment, ils le cherchent, évidemment. Ils ont très, très bien réussi leur coup, donc bravo à eux. Après, où est-ce que ça les mènera? Effectivement, s'ils se prennent un méga procès par Nintendo ou The Pokémon Company et qu'ils se prennent des millions de dommages d'amende, vaut mieux qu'ils engrangent. Parce que quand on dit que ça bat tous les records, c'est vraiment un truc de fou. Je crois que c'est 6 millions de copies vendues en l'espace de quelques jours. En gros, ils se sont vendus autant que le dernier jeu Pokémon dans le même espace de temps. Ce qui est incroyable parce que les Pokémon, ça se vend très très bien, évidemment.
Un million de joueurs en simultané sur Steam, donc sur PC. C'est un jeu qui est disponible dans le Game Pass, donc tout le monde peut y aller.
Ouais, sur Twitch, tous les influenceurs s'y sont mis.
Ils ont fait une grande campagne d'influence là-dessus. Après, ça peut être aussi un phénomène du moment qui va très vite s'essouffler, on verra. Mais là où ils sont malins, ça ressemble au Pokémon, ça c'est une évidence, mais ça ressemble beaucoup à Genshin Impact, ça ressemble beaucoup à Fortnite, il faut faire de la construction.
Oui, c'est une espèce de marmite avec tous les jeux qu'il faut du moment.
L'aspect créatif, il est quand même limité. C'est un studio qui avait déjà sorti un jeu en early access un peu borderline. Craftopia, qui ressemble, voilà. Ils sont quand même coutumiers du fait de faire des trucs où on est un peu, on est un peu à la limite quand même. Hein, et d'avoir...
Donc vous voulez dire par là que le buzz là, autour de ce jeu-là n'est pas justifié, mérité?
Ah si. Alors pour le coup, c'est comme disait Anthony, tous les déçus des derniers jeux Pokémon, là, ils ont un jeu... Finalement, ils ont un jeu qui est presque plus construit et qui propose plus de choses qu'il n'y a pas eu. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que il y a des gens qui assument le côté Pokémon. Okay. On veut aller jouer à un jeu Pokémon drôle, novateur.
Super fun.
Pour le fun, tu peux jouer jusqu'à 32 personnes en même temps.
Tu peux frapper un petit poulet.
Tu peux. Ah ouais, mais non, mais là-dessus, tu peux.
C'est beau, parce que les Pokémon, c'est vrai que c'est gentil. Voilà. Et non, là t'as ce truc.
Les Pokémon, je suis désolée, je vais me mettre tous les fans de Pokémon ado, parce que moi, je suis la génération perdue des Pokémon, celle qui était limite trop vieille pour y jouer quand c'est sorti, donc qui s'en fout, mais total.
Parce que t'as un côté un peu subversif, quoi. Tu vois, pouvoir tirer sur Pikachu à la Kalachnikov, forcément.
D'ailleurs, la première réaction, ça a été ça de Nintendo.
Depuis des années, on rêvait de ça.
Pika, ouais, c'est bon.
Tu rigoles, la première réaction qu'il y a eu de The Pokémon Company et de Nintendo, ça a été pour une vidéo où un mec avait réussi à créer un mode dans sa vidéo où il mettait Pikachu avec un lance-roquette, en gros, quoi. Et là, ils ont fait « Ah non, 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 scandale !» Ça a été la seule réaction en une semaine, tu vois, où ils ont fait interdire la vidéo. Je pense que oui, à mon avis, ils préparent une... Il prépare un truc qui va être ça va être coton.
On va suivre ça. Et tu en parleras, j'imagine, dans Multijoueur
la semaine prochaine.
On termine avec Disney qui a sorti un truc. On se dit, mais voilà, qu'est-ce qui leur arrive ? Ouais. Une espèce d'accessoire pour... on ne sait pas quoi, pour immersif en fait.
Immersif, exactement, alors dont les applications pourraient être notamment la réalité virtuelle, mais aussi leur parc d'attractions, pourquoi pas. En gros, c'est un tapis. Alors, un tapis, c'est pas très innovant. C'est une innovation qui a été dévoilée, alors c'est par leurs ingénieurs, ils montrent un petit peu ce sur quoi ils travaillent. Et en fait, c'est un tapis qui permet, lorsque tu joues en VR notamment, de continuer à bouger et de marcher à l'infini. Parce que c'est vrai que, bon, on a tous testé un casque de VR, c'est génial d'un point de vue visuel, mais c'est hyper frustrant parce que physiquement, il y a un moment, tu te prends un mur. Quoi. Voilà,
c'est-à-dire que là, tu dois courir parce que tu as un monstre qui te suit, tu es sur ce tapis, tu cours, et en fait, le système fait que tu cours, mais en faisant du surplace.
Exactement. En fait, je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. Si tu veux, c'est un tapis qui est composé de centaines de petites tuiles qui sont rondes ou hexagonales, d'ailleurs, je ne sais pas trop, qui peuvent bouger à 360 degrés et qui vont accompagner tes mouvements. Donc, toi, tu as le casque sur la tête, tu marches, ton personnage marche en même temps que toi, tu bouges à gauche ou tu vas vers la gauche, tu fais un pas de côté, le tapis va t'accompagner. En gros, il va faire en sorte que tu ne sortes pas de cette surface-là. Et donc, toi, tu peux marcher, courir. Alors, marcher pour l'instant plus que courir, à l'infini potentiellement.
Et c'est motorisé.
C'est motorisé. Donc, ce qui fait qu'en termes d'immersion, forcément, tu vas avoir un sentiment dingue parce que tu joues à un jeu, tu joues à un RPG, tu te balades littéralement dans un monde virtuel à la place de ton personnage, quoi. Et on peut imaginer plein d'autres applications, même en milieu éducatif, tu vois. Tu visites la Rome antique, tu as le casque sur la tête, tu te balades dans les rues, quoi, comme si tu étais en train de marcher dans la Rome de l'an zéro. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios comme ça. Moi, je trouve que c'est intriguant. Je trouve que c'est visuellement très réussi. C'est pas comme on avait vu des tapis roulants, je crois que c'était Omni qui avait proposé ça notamment à 360 degrés.
Il y avait des tapis ou des espèces de plateaux aussi un peu. Non, ce que je trouve génial, c'est que Antoine et moi on fait beaucoup de réalité virtuelle. Le problème de la réalité virtuelle, c'est quand ton cerveau ne comprend pas ce que tes yeux voient. Et notamment dans tout ce qui est mobilité. Les déplacements, vous vous souvenez, les déplacements à la gâchette où ça fait une grosse flèche où on avance soudainement d'un point A à un point B. C'est le truc où en général les gens sont malades parce que ton cerveau il capte pas ce qui se passe. Là, je vois ça comme un truc vraiment, le côté, le petit plus qui fait que ton corps va être synchrone avec tes yeux. Et ça, franchement, en réalité virtuelle, c'est un truc énorme. Après, il faut voir la place que ça va prendre. Alors moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que le mec est un peu, tu sais, comme sur des rollers et qu'il va se casser la figure.
Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te dis, tu demandes dans quelle mesure ça va être chorégraphié.
Ils en sont où, Anthony ? C'est encore du prototype de la recherche ou ils vont sortir ce truc-là ?
Non, pour l'instant, c'est du prototype et de la recherche. En fait, les premières applications, a priori, ce serait pour leur parc d'attractions.
Ouais,
tu peux imaginer, on peut imaginer plein d'attractions où effectivement, tu pourras avoir un casque sur la tête et te balader dans un monde virtuel. Est-ce qu'ils auront vocation à terme de le commercialiser ? Effectivement, il y avait d'autres projets qui étaient pour le coup destinés au grand public. Moi, je me souviens d'Omni, notamment le tapis à 360 degrés. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je me dis, les expériences VR vont devenir de plus en plus immersives. Et c'est peut-être ça, finalement, la porte d'ouverture vers le métavers, le fameux métavers qu'on nous promet, qui était en gros Ready Player One. Ready Player One, je ne sais pas si vous vous souvenez. Exactement. C'est un monde qui est tellement sensoriel et réaliste que tu n'as plus envie de vivre dans ta vie réelle. Et sauf que là, on en est très très loin aujourd'hui. Donc là, effectivement, tu aurais le tapis qui est une des briques technologiques. Tu pourrais avoir des vestes ou des combinaisons haptiques qui te permettent de ressentir.
De couper du monde.
Ouais, voilà, de te couper du monde. Alors je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas, mais en tout cas, on va un petit peu plus vers cette promesse-là qui était la promesse originelle du métavers et qui a complètement raté pour l'instant. Quoi.
Et n'oublions pas que Disney est un des partenaires d'Apple sur le Vision Pro.
Sur le Vision Pro.
Et donc, au niveau sensoriel et ajout,
on pourra avoir
là-dessus,
un truc sympa.
Eh bien, on ajoute une brique au Vision Pro aussi là-dessus.
Malin.
Parce que ça ne servira pas qu'à regarder des films, ça peut aussi servir à jouer, n'oublions pas.
Nickel tout ça. Bon, eh bien écoutez, vous savez quoi, c'est sur cette innovation étonnante, un peu insolite, qu'on termine cette première partie de quoi je me mail. Merci beaucoup Anthony, Mélinda.
Merci à tous les deux.
On se retrouve à la fin de ce De quoi je me mêle en module bonus, encore pendant quelques minutes. Je vous raconterai comment j'ai failli perdre mon téléphone au tout début du CES. Et si on a deux minutes, on parlera de l'Apple Car parce que visiblement, il y a eu un petit update. Et vous restez avec nous. Alors, ce module bonus, il est disponible, rappelons-le, que en version audio sur le podcast audio de De quoi je me mêle. Voilà, c'est pour vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous télécharger en audio. Donc, on vous fait un petit cadeau supplémentaire. Et dans un instant, Christophe Joly me rejoint, nostalgique, l'histoire du QR code, les amis. Voilà, allez, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Notre deuxième partie de quoi je me mêle avec beaucoup de plaisir, j'accueille Christophe Joly qui est de retour. Salut Christophe.
Oui, salut François.
Tout va bien Christophe ?
Tout va bien.
Et bonne année ?
Oui, bonne année, dis donc.
Oui, parce qu'on
oui, on est déjà presque
encore
à la fin du mois.
Et... ouais, mais on a encore quelques jours pour se souhaiter...
Tous mes vœux de succès.
Voilà, et tous nos vœux, mon cher Christophe, aussi pour toi. Et on nous souhaite, toi et moi, encore plein de chroniques nostalgiques, parce qu'on adore ce rendez-vous.
Avec grand plaisir.
Qui nous permet de nous replonger un
et
peu
les
dans,
sujets
dans,
sont infinis, hein.
Dans l'histoire abracadabranque de la tech, avec des innovations qui, aujourd'hui, voilà, ont révolutionné notre quotidien. Ça va être encore le cas aujourd'hui, puisqu'on va évoquer un truc qu'on utilise quasi au quotidien, le QR code.
Voilà, le QR code. Avant le QR code est né en 94. Hein.
94.
Donc, il a quand même quelques années désormais. En 94, la France compte 500 000 d'internautes. Alors, ça va faire sourire hein, quand on voit tous ces chiffres. Soit environ 16% de la population. Un Français sur 6 possède un micro-ordinateur. 10% des Français, écoute-moi bien, perçoivent l'informatique comme une chose négative. 10%, c'est quand même
94, donc il y a 30 ans.
Voilà, il y a 30 ans. C'est l'année de la création d'Amazon, c'est l'année du lancement de la PlayStation, et c'est aussi l'année, moi j'avais oublié ce produit, alors qu'il n'a pas marché très longtemps, c'est le lancement le 17 février 94 du QuickTake par Apple, qui était un appareil photo numérique. C'était le premier téléphone, pas téléphone, mais appareil Apple qui ne fonctionnait qu'avec les appareils Apple. Steve Jobs l'a arrêté en 97 quand il a... Quand
c'était
il a
un appareil photo.
Ouais, un appareil photo. J'avais complètement oublié l'existence de ce petit bout de plastique bon, qui n'a pas laissé...
Qui n'a pas laissé...
Grand souvenir.
Il y a eu pas mal d'échecs d'Apple. Hein,
ouais, quelques-uns. Ouais. Mais celui-ci, c'est un petit échec parce qu'on s'en souvient même pas.
On s'en souvient même pas. Donc, 94, et c'est cette année-là que... On commence à réfléchir au QR code.
Bah, c'est un ingénieur, en fait, un ingénieur au Japon qui s'appelle Masahiro Hara. Il est ingénieur pour Denso Wave, qui est une filiale de Toyota, équipementier automobile. Il a l'idée de ce QR code quand, pour pouvoir pister ou tracer les pièces détachées qui sont en transit. Donc il met des QR codes, mais à un moment donné, pas des QR codes, mais des codes barres. Et à un moment donné, il y a beaucoup de codes barres sur les pièces. Ouais. Du coup, il se dit comment faire pour regrouper tous ces codes barres en un seul code. Donc il a cette idée en 94. Le QR code, ça veut dire Quick Response. Et l'intérêt, c'est que les données sont rapatriées très rapidement. Comme un code barre, mais beaucoup plus de données, tu vas le voir. Donc son idée, c'est ça, sachant que son patron de l'époque ne lui donne aucun budget. Il lui, donne, il lui laisse du temps, il est OK. Donc
vas-y.
Il est dans un bureau tout seul avec son petit ordi.
Amuse-toi, mais t'as pas de sous.
Mais t'as pas de sous, voilà. Mais il trouve la solution quand même, et donc la solution est déployée en 94. Il s'inspire du Go, le jeu de, de stratégie, on va dire, avec des petits cubes noirs ou blancs. Et son idée, donc, c'est de regrouper tous ces éléments, d'autant de codes barres sur un seul QR code, sachant qu'un QR code peut stocker jusqu'à 7089 caractères numériques ou 4296 caractères alphanumériques. Pour info, un code barre peut en stocker une douzaine.
Donc, voilà. En gros, un QR code, c'est un super, super code barre.
C'est ça, c'est un super, super code barre, sachant qu'il a un avantage important, c'est qu'il est encore lisible, même s'il est abîmé à hauteur de 30%.
Ah,
un
d'accord.
Code barre, tu le biffes,
c'est mort.
Une seule barre, c'est mort.
Ouais.
Alors qu'un QR code, pour le coup...
Ouais, on peut, si par exemple, il y a quelques petits dessins du code barre qui sont effacés, malgré tout, l'informatique, enfin l'appareil photo qui le prend, arrive à le reconstruire.
Voilà, et c'est pour ça que parfois, les QR codes ne sont pas complètement lisibles en fonction de la luminosité. Et ça marche quand même. Voilà.
C'est génial cette invention quand même. Hein.
C'est mort. Donc c'était quand même une révolution à l'époque. Il restera dans les usines de Denso pendant 5 ans. Mmh. Et en 99, le QR code... s'ouvre au grand public, on va dire, sachant que Denso décide de le donner sous licence libre.
Wow.
Donc tout le monde peut reprendre ce... C'était l'idée de cet ingénieur.
Ça, c'est hyper généreux quand même. Hein.
Bah ouais, c'est très généreux parce qu'ils auraient pu le garder pour eux.
S'ils avaient déposé un brevet et que... Alors peut-être que ça n'aurait pas marché finalement.
Peut-être pas, mais dans les faits, ils ont décidé que tout le monde pouvait...
Utiliser
le QR code. Donc ça se développe au Japon dans les années 2000, avec l'avènement des smartphones, mais dans un premier temps, uniquement au Japon. Mais là-bas, c'est vraiment un carton. Hein. Dès 2003, tout le monde s'approprie le QR code pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, il suffisait d'avoir un smartphone avec un capteur photo, avec un appareil photo pour lire un QR code.
Et bien sûr.
On le verra tout à l'heure, ce n'était pas le cas en France.
Et oui.
Il fallait télécharger une appli, on reviendra dans le détail. Mais là-bas, un point tel que certains faisaient tatouer un QR code sur le bras avec leurs coordonnées, leur numéro de téléphone ou leur carte de visite. C'est quand même étonnant parce qu'un tatouage, ça a vocation à être pérenne quand même.
Au moins, tu es sûr que tu as toujours tes coordonnées sur toi. Quoi.
Voilà.
C'est pratique.
Sachant que l'iPhone ne permettra de lire les QR codes de façon directe que bien des années après, oui. ce que permettaient les smartphones au Japon. Donc il faudra un petit peu de temps pour que le QR code sorte du Japon, s'attaque aux autres pays. Je vais donner quelques données intéressantes, parce que le QR code au début est perçu comme un gadget. Je ne sais pas si tu te rappelles, au moment où on commençait à en parler au début des années 2000, moi j'étais à 20 minutes, on commençait à faire des papiers là-dessus, mais on voyait que ça ne perçait pas en fait. Les gens n'avaient pas encore le réflexe de se...
On ne savait pas trop à quoi ça servait
voilà,
finalement.
On savait pas trop
dans quel contexte.
Mais c'est passé quelque chose qui a vraiment changé la donne.
Bien sûr.
Mais pendant que le QR code se développait au Japon, la France a lancé le flash code.
Oui.
Voilà, le flash code, c'est la même idée. C'est ce qu'on appelle un code en 2D, en deux dimensions.
D'accord.
C'était créé par l'Association française du multimédia mobile. C'est une technique analogue qui s'appelle Data Matrix. Là, l'inconvénient, c'est qu'il fallait télécharger l'appli flash code pour pouvoir lire le QR code. Donc, il fallait passer via l'appli. C'est une passerelle qui...
C'était donc pas à partir du moment où tu téléchargeais pas l'appli, ton appareil photo ne décodait pas le QR code. Donc, ouais.
Donc c'était un problème.
Ouais.
L'autre particularité, c'est que ça passait via les opérateurs de téléphonie mobile. C'est eux qui redirigeaient ensuite vers un site web. Et comme à l'époque, c'était assez cher, ils refacturaient à la hauteur de ce que tu téléchargeais comme contenu. Donc voilà.
C'était pas terrible. Quoi.
C'était pas terrible, ça coûtait, c'était pas très intuitif. L'autre inconvénient, c'est que les touristes étrangers ne pouvaient pas utiliser le flashcode.
Et oui, puisque c'était français.
Parce que c'était français et lié aux opérateurs français.
Okay.
Alors désormais, c'est aussi en utilisation libre. On peut quand même reconnaître au QR code d'être rentré dans le Robert et le Larousse. La définition, c'est nom masculin, code barre 2D de la marque de ce nom. Voilà, ils ne sont pas cassés la tête.
Okay.
C'est le nom du flashcode. On a aussi une autre particularité en France, c'est le 2D doc. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais quand tu payes une amende, ça t'arrive de payer des amendes ?
Ça m'arrive, oui.
Voilà. Eh bien, c'est du 2D doc. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés qui a développé ce principe de QR code, donc spécifique, en 2012. Et ça sert aussi au pass vaccinaire, au pass sanitaire.
Oui, le pass sanitaire.
Pendant le Covid.
Mais tiens, tu parlais d'amende. Il se trouve que j'ai dû en payer une il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, j'ai téléchargé l'appli sur mon iPhone. J'ai scanné le code, tu sais, qu'il y a sur le papier que tu reçois.
Oui.
Ça ne marchait pas. En fait, l'appli était buggée. C'est un truc, d'ailleurs, là, je ne sais pas moi, s'il y a des développeurs ou s'il y a des responsables de cette appli qui nous écoutent, qui nous regardent, checker parce que franchement c'est inutilisable.
Donc
quoi.
Tu n'as pas pu payer ton amende.
Oui, il a fallu que je recopie le numéro de télépaiement sur l'application. Mais c'est dommage parce qu'un QR code c'est vachement plus pratique.
Bah oui, c'est quand même beaucoup plus pratique et c'est direct. Alors il faut savoir.
Double peine, tu payes et en plus ça marche pas.
Voilà. Donc c'est quand même. il faut savoir qu'à ce moment-là, en 2012, 97% des Français, selon une étude de INC, ne savent pas ce qu'est un QR code. 97%.
En 2012
En 2012. Oh. Il y a encore du boulot. Et 6% des Américains ont utilisé un QR code une seule fois. Bon, 6% en une fois. Donc, il y a beaucoup de travail. Bon, tu sais ce pourquoi le QR code s'est développé ?
Évidemment.
C'est la fameuse pandémie. Ça a explosé. Vraiment, le QR code, ça servait au pass sanitaire, mais ça servait aussi au restaurant. C'était l'avantage de ne plus manipuler les menus.
Le sans contact.
Le fameux
sans contact.
En
fait, un sans contact, sans NFC, quoi. C'est-à-dire très simple,
l'utilisation. Voilà. Puis vraiment simplissime.
Bien sûr.
Effectivement, tu l'as dit. Un chiffre qui permet de mesurer l'importance du QR code et là où ça a explosé pendant le Covid, le 13 octobre 2021, 600 millions, quasi 600 millions de certificats européens ont été utilisés via un QR code.
Waouh.
Voilà, 600 millions. Et en France, 137 millions de certificats sur une seule journée. Il y a un peu plus de 66 millions d'habitants, tu te rends compte ? Donc c'est quand même très conséquent.
C'est incroyable.
Aujourd'hui, ça permet quoi le QR code ? On va le voir ensemble rapidement. Ça permet d'aller sur un site web, de regarder une vidéo, de se connecter à une borne Wi-Fi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand il faut taper le code WPA, c'est quand même vachement plus facile avec un...
Ça, c'est super pratique, en fait.
Ah oui, c'est quand même pratique. Si tu veux partager ta connexion Wi-Fi à la maison avec quelqu'un, ça prend quelques instants. Tu peux consulter un menu, effectivement. Tu peux aussi payer. Il y a des solutions désormais de paiement. Tu ne bouges pas ta table et tu payes via un QR code.
Ouais.
C'est une appli qui s'appelle Sunday, notamment, qui permet de faire ça et c'est super simple. Tu peux scanner ton billet de concert, évidemment, ton billet de train, ta carte d'embarquement, un audio guide dans les musées. Tu peux, sur ta télé, te connecter à Netflix, par exemple, via le QR code qui s'affiche à l'écran, envoyer des questions.
Ça t'évite de rentrer ton login et ton mot de passe, c'est vachement plus rapide.
C'est quand même beaucoup plus rapide. Tu peux faire des paiements, on l'a dit, tu peux avoir des cartes de visite, ajouter un événement dans ton agenda. Ça sert vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Désormais, c'est rentré dans les mœurs. Tu vas dans un supermarché, tu as un QR code, tu peux avoir des infos nutritionnelles, par exemple, sur une appli, tu peux avoir des promos. Et en 2013, il y a même un truc en moi que je trouve un peu glauque. Il y a des QR tombales qui ont été lancés, c'est-à-dire qu'il y a un QR code dans les cimetières, sur les tombes, qui permettent d'avoir des souvenirs, des petites vidéos de la personne décédée.
Wow.
Je ne sais pas dans quelle mesure. Moi, je trouve ça glauque.
Ouais, c'est un peu glauque.
Mais ça entretient la mémoire, disent les fondateurs, les créateurs de ce QR code. Alors moi, je ne suis pas fan, mais... Après tout, chacun
après,
fait ce qu'il veut.
Après, voilà. Chacun est maître de son de la manière dont il veut qu'on garde un souvenir de lui, c'est assez étonnant, tiens.
Voilà, c'est assez étonnant. Alors désormais, le QR code, on l'a dit, fait partie de notre quotidien. En 2022-2023, l'augmentation est de 400% de l'utilisation de la génération des QR codes et de l'utilisation. 59% des Américains pensent que ça va s'installer sur la durée, 75% estiment qu'ils vont plus utiliser les QR codes à l'avenir. Et à ton avis, quel est le classement ? Le top 5 des pays où on utilise le plus de QR codes ? Moi, j'étais un peu surpris.
Tiens. Moi, j'irais la France.
La France, c'est troisième.
Troisième, d'accord.
Ouais. Alors, tu prends le bassin des populations. Le premier, c'est les États-Unis.
Les États-Unis, bien sûr.
C'est pas déconnant. Ouais. Le deuxième, c'est l'Inde. Mais la France est troisième.
Ok. Pas mal quand même.
Pas mal quand même, oui, parce qu'on est presque à 500 millions d'utilisations.
Mais c'est dû à quoi, ça ? C'est le stop Covid, tu crois ou...
Je pense que ça fait partie des choses. Peut-être qu'on est plus en avance au niveau de l'installation du nombre de smartphones.
Ouais,
parce que c'est très indexé à ça.
Et puis, c'est vrai qu'il y avait une obligation quasi en France, à l'époque de tous anti-Covid. Il fallait que tu scannes ton QR code pour pouvoir...
Tu pouvoir le scanner sur toi.
Tu scannes ton document de vaccination pour que ça arrive sur ton téléphone.
C'est ça.
Pour que tu aies ton passe vaccinal après. Donc on était un peu obligés.
Alors tu peux voir le papier, mais dans les faits c'était quand même plus pratique. Tu étais sûr de l'avoir toujours sur toi. Et le quatrième c'est la Grande-Bretagne et le cinquième c'est le Canada. Globalement, on se sert, je sais pas toi, dans quelle proportion tu te sers des QR codes et pour faire quoi ?
Moi, c'est le resto. La plupart du temps, c'est le resto, vraiment.
Bon, ça concerne la grande majorité.
Après, je me sers de Yuka, mais Yuka, c'est pas le QR code, c'est le code barre.
C'est le code barre, effectivement.
Tu sais, quand tu vas faire tes courses et tout, tu regardes un peu les propriétés nutritionnelles.
Hein. Ouais. Tu as plus d'infos. Mm-hmm. Globalement, la moitié des utilisateurs se servent de QR code pour aller vers un site internet, une URL, donc consulter un menu, effectivement. L'autre moitié, un peu moins de la moitié, un tiers, c'est pour récupérer de la data, une vidéo, quelque chose qui est stocké sur le QR code.
Ouais.
Donc, on télécharge un élément qu'on va récupérer, puis ensuite, c'est l'échange de cartes visite ou de choses comme ça. Le paiement fait partie des choses qui vont se développer. Selon une étude Juniper Research, d'ici 2025, le paiement par QR code va générer 3000 milliards de dollars.
C'est incroyable.
Donc ça veut dire que ça va vraiment s'imposer.
Est-ce que c'est sécurisé, le QR code ?
C'est le sujet. T'as deux types de QR codes. T'as les QR codes statiques, qui eux sont figés et qui peuvent être reproduits. C'est le problème des billets de concert, par exemple. Si je te revends un billet de concert avec un QR code, tu vas scanner le code, ça va passer, tu vas rentrer dans la salle. Si je le revends à plusieurs personnes, ceux qui vont passer après... ça va être déjà scanné.
En fait, comme il aura été validé une fois,
c'est mort.
Ça ne marchera plus.
Voilà. Donc, la solution, c'est le QR code dynamique qui est renouvelé. C'est ce qu'ont fait certains revendeurs officiels, distributeurs, des tourneurs de concerts. C'est-à-dire que le code est rafraîchi toutes les 30 secondes. Ça peut être paramétré. Et du coup, le téléphone est associé au QR code et tu ne peux pas le reproduire. Donc ça, c'est relativement sécurisé. Ensuite, ça dépend de la nature des infos qui sont sur le QR code. Mais si tu te souviens, le QR code du pass sanitaire de Emmanuel Macron et de Jean Castex avait fuité sur le web. Avec des infos confidentielles.
Ouais, c'est sûr.
Donc c'est relativement sécurisé, mais faut pas laisser traîner ces QR codes. Donc c'est pas une bonne idée de le mettre sur le web, par exemple, sur les réseaux sociaux.
Bien sûr. Oui, ou sur Twitter. Oui, comme tu le dis, sur les réseaux sociaux.
Et il y a pas mal d'arnaques, notamment récemment, en un mot, sur une borne électrique. Des escrocs ont mis un autocollant avec un faux QR code qui irait envoyé vers un site factice qui récupérait les données bancaires. Quelques personnes se sont fait arnaquer de quelques dizaines d'euros, mais soyez vigilants désormais à ce que vous scannez comme type de QR code.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Christophe.
Merci à toi.
C'était passionnant, cette histoire.
Donc, continuez à scanner, mais pas n'importe où.
Qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Merci, Christophe.
Merci beaucoup.
Christophe Joly, donc, pour terminer ce De quoi je me mêle. Un grand merci de nous avoir suivis, d'être fidèles à ce rendez-vous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Que vous soyez sur BFM Business, à la radio, à la télé, en podcast vidéo ou en podcast audio. Tiens, si vous êtes en audio, petit module bonus qui arrive juste après. Si vous nous téléchargez par exemple sur tous les agrégateurs de podcasts ou Apple Podcasts, petit bonus qui arrive tout de suite. À très vite et merci de nous suivre.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.